Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, podcast en partenariat avec le CEA pour parler des galaxies et en particulier de la naissance et de la mort des galaxies en compagnie de David Elbaz du laboratoire d'astrophysique des interactions multi-échelles, donc qui est une unité mixte CEA, CNRS, Université Paris 7. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes astrophysicien, on parle des galaxies et en particulier de leur évolution. Alors, ça, c'est un peu comme les étoiles, hein, ça naît, ça vie, ça meurt. On parle moins de mort des galaxies parce que finalement on est dans des temps longs. Alors ma première question, elle est très simple, c'est est-ce qu'une galaxie aujourd'hui dans l'univers tel que vous l'observez actuellement, est-ce que c'est un objet qui meurt?
Alors c'est une très bonne question parce que jusqu'à il y a peu de temps, on s'intéressait essentiellement à comprendre l'origine des objets, la naissance des étoiles, la naissance des galaxies. Et aujourd'hui encore, on n'a pas véritablement résolu le problème. Mais on a fait un autre constat en comptabilisant toutes les galaxies dans l'univers, sur des régions bien spécifiques du ciel. On s'est aperçu que depuis à peu près 8 à 10 milliards d'années, les galaxies s'éteignent. Et la majorité des étoiles dans l'univers proche sont situées dans des galaxies qu'on pourrait appeler de mortes, puisqu'elles n'ont plus de formation d'étoiles. C'est-à-dire qu'en masse, ces galaxies-là, ce qu'on appelle des galaxies typiquement rouges ou elliptiques, représentent près de 70% de la masse stellaire de l'univers proche, même si en nombre, elles ne sont pas les plus nombreuses, mais comme elles sont très massives, elles représentent la majorité des étoiles. Comment se fait-il que ces galaxies meurent? C'est une des grandes questions pour la raison suivante. Quand on fait la comptabilité des composantes énergétiques dans l'univers, on voit qu'il y a à peu près 72% de ce qu'on appelle de l'énergie noire. En général, quand on dit noir, c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est, donc d'une énergie dont on ne sait pas ce que c'est, qui provoque l'accélération de l'expansion de l'univers. Ensuite, 24% de matière noire, qui a pour effet inverse d'accélérer la naissance des galaxies parce qu'elle aide la gravité à former des galaxies. Il reste 4% de matière classique qu'on appelle la matière baryonique. Mais ce qu'on sait moins, c'est que 90% de cette matière baryonique est aussi noire. D'ailleurs, on ne sait pas où elle est. Et c'est là où est le paradoxe, c'est que seul 10% de la matière classique ont donné naissance à des étoiles. Or, le gaz interstellaire, intergalactique, naturellement devrait donner naissance à des étoiles, puisqu'il s'effondre sous l'effet de l'attraction gravitationnelle dans les puits de potentiel gravitationnel qui sont dus à la matière noire. Et ce n'est pas le cas. 90%, c'est comme si vous aviez quelqu'un dans une salle avec une énorme quantité d'oxygène et qui vous disait « j'étouffe ». Voilà. Les galaxies s'éteignent par manque de sang, de gaz. Or, 90% de la matière est sous la forme de gaz.
C'est pas très efficace. Enfin, on pourrait se dire, c'est pas très efficace.
Exactement. C'est un problème d'efficacité.
Ouais. Pour bien comprendre, quand vous dites une galaxie meurt, ça veut dire qu'une galaxie finalement ne fait plus, enfin n'a plus de naissance. C'est comme de la démographie. Une nation meurt simplement parce que finalement, elle a pas de renouvellement de population.
Exactement. L'âge moyen d'un être humain dans une population qui vieillit donc va augmenter. Bien, l'âge moyen d'une étoile va augmenter. Et donc, elles vont devenir les étoiles les plus massives vivent le moins longtemps. Donc les plus massives de celles qu'on connaît, qui ont à peu près 100 masses solaires, vont vivre de l'ordre du million d'années, tandis que les moins massives vont vivre plus longtemps que l'âge de l'univers. Et quand on regarde les galaxies dans l'univers relativement proche, celles dont on parle quand on dit qu'elles s'éteignent et qu'elles meurent, elles n'ont que des étoiles moins massives que le Soleil. La masse typique d'une étoile dans la Voie lactée, c'est de l'ordre du tiers de la masse du Soleil. Et dans le disque de la Voie lactée, il y a aussi des étoiles qui ont 10, 20, 30, 40, 50, 100 masses solaires. Mais dans les galaxies elliptiques, il n'y a que des petites étoiles qui sont moins massives, moins chaudes, plus froides, donc plus rouges. Et donc la galaxie tout entière apparaît comme une sorte de blob rouge. On parle d'ailleurs de bimodalité, il y a une scission entre une population de galaxies rouges, et donc mortes, froides, et puis une population de galaxies bleues qui possède des étoiles jeunes, qui sont nées récemment, qui sont relativement massives, et bleues parce que plus chaudes. Et puis entre les deux, on a cherché longtemps les galaxies vertes, qui seraient la phase de transition entre une galaxie éteinte et une galaxie allumée. On pourrait penser que les galaxies s'éteignent de manière progressive et passent du bleu au vert, puis... Et non, il n'y a quasiment pas, il y a une sorte de fossé, pas de galaxie verte, il y a un fossé entre les deux, et c'est l'origine du paradoxe, c'est que les galaxies sont soit allumées, soit violemment éteintes. Et qui a éteint les galaxies, se sont-elles éteintes naturellement, et à ce moment-là, il faut expliquer ce mécanisme naturel, ou bien est-ce qu'il y a un acteur parmi les mécanismes physiques dans l'univers qui est responsable de l'extinction des galaxies. Un peu comme une météorite tombe sur Terre, éteint les dinosaures, ben nos dinosaures à nous sont les galaxies elliptiques et on cherche la météorite.
Est-ce que ça correspond à une distance dans l'espace et donc dans le temps? Vous dites on ne voit pas des galaxies toutes rouges et puis ensuite une dégradation. Il n'y a pas de corrélation avec la distance des galaxies qui sont nées très tôt. Certaines sont encore actives, d'autres sont mortes.
Si, exactement. C'est tout à fait lié parce que si une galaxie aujourd'hui est rouge, ça veut dire qu'elle n'a pas formé d'étoiles pendant un certain nombre de milliards d'années. Et donc, les étoiles qu'elle a formées ont été formées il y a un certain nombre de milliards d'années. Donc, ces galaxies-là sont obligatoirement nées tôt dans l'histoire de l'univers. Puis elles se sont éteintes. Tandis que les autres ont continué de former des étoiles de façon plus régulière. Alors, en anglais, on appelle ça « downsizing », ce qui veut dire qu'en fait, la masse typique d'une galaxie qui forme une grosse quantité d'étoiles n'a cessé de diminuer depuis 10 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. Il y a 10 milliards d'années, les galaxies qui formaient une grosse fraction de leurs étoiles étaient les plus massives, et puis à mesure qu'on s'approche d'aujourd'hui, elles sont de plus en plus petites. Et ça, pour nous, c'est paradoxal, parce que notre vision de la formation des galaxies, c'est une vision qui est à l'inverse, qui est une vision hiérarchique des poupées russes, où on donne naissance à des petites galaxies qui fusionnent les unes avec les autres pour devenir grosses. Dire que les grosses sont celles qui sont nées le plus tôt avec toutes leurs étoiles et que les petites continuent de former leurs étoiles aujourd'hui semble être exactement à l'inverse. Alors, il y a une façon de réconcilier les deux, et c'est d'ajouter une autre dimension. L'idée que on suit l'histoire des galaxies dans le temps, c'est une idée qui est un peu trop simplifiée, parce qu'en réalité, une galaxie est très sensible à son environnement. Et donc, les galaxies ne naissent pas toutes dans les mêmes conditions. Un enfant qui va naître dans une famille riche et un enfant qui naît dans une famille pauvre ne vont pas avoir les mêmes conditions de vie. Une galaxie qui naît dans un environnement où il y a 100 galaxies tout autour va très rapidement avoir une vie sociale. Elle va fusionner avec ses petites galaxies et va devenir très grosse et va, au cours de ces fusions, accélérer le processus de formation d'étoiles et donc va pouvoir donner naissance aux étoiles très tôt. Et malgré le fait qu'on passe des petites aux grosses, quand la région est dense, le temps caractéristique est court. En d'autres termes, par opposition, une galaxie qui est dans une région très peu dense, elle va prendre beaucoup plus de temps pour donner naissance à ses étoiles. Et donc, on peut avoir une galaxie massive qui est elle aussi née de la fusion de petites, mais très tôt, parce que tout simplement, elle était dans une région particulière de l'univers. Alors, est-ce qu'on en voit la trace? Oui. Les galaxies rouges sont, dans l'univers proche, toutes dans les régions les plus denses de l'univers. Ce qui suggère qu'effectivement, elles ont été très affectées par leur environnement dans l'histoire de l'univers. Et donc, on s'aperçoit que la composante qui touche des tailles de l'ordre du million ou de quelques millions d'années-lumière est cruciale pour comprendre ce qui se passe à l'échelle de l'année-lumière à l'intérieur des galaxies.
Oui, je voulais revenir sur justement cette interaction entre les galaxies. On le voit bien sur les images que nous délivrent les télescopes. On voit que ça nourrit en flambées d'étoiles les galaxies elles-mêmes. Mais ce que vous nous dites, c'est que ces flambées, finalement, plus elles sont importantes, plus elles sont rapides. Pourquoi ? Parce que ça fabrique de grosses étoiles et ces grosses étoiles ont une durée de vie plus lente.
Alors ça, c'est vrai que la question reste ouverte, hein. Pourquoi, pour une galaxie massive, tout ça s'est fait dans un temps très court, c'est quand même le temps dont on parle, c'est de l'ordre du milliard d'années, c'est vraiment très court. Et donc, aujourd'hui, dans le principe, il y a cette idée dont je viens de parler, qui est que dans un environnement plus dense, les choses ont lieu plus rapidement. Est-ce que, de façon quantitative, lorsqu'on met ça dans une simulation numérique à l'ordinateur, par exemple, est-ce qu'on arrive à expliquer les observations? À l'heure actuelle, non. C'est-à-dire que lorsque vous me dites « mais finalement, est-ce que ça se résume à ça ?» dans le principe, on se dit « on va peut-être s'en tirer comme ça ». Mais dans les faits, pour l'instant, ça ne marche pas. Donc le problème reste fondamentalement ouvert. Et il est donc aujourd'hui tout à fait possible que le mécanisme clé qui accélère la formation d'étoiles dans ces grosses galaxies ne soit pas les fusions de galaxies, parce qu'à l'heure actuelle, non seulement toutes ces petites galaxies qui fusionnent ne suffisent pas à ce que ça se passe dans un temps relativement court, mais en plus, on a constaté que lorsqu'on essaye de calculer l'impact d'une fusion de deux galaxies sur la formation d'étoiles, on n'a jamais réussi à produire des flambées de formation d'étoiles aussi intenses. Jamais. Et donc, les galaxies les plus lumineuses qui ont ces énormes flambées de formation d'étoiles, pour l'instant, restent quand même assez paradoxales.
Est-ce qu'on n'a pas une difficulté de définition de ce qu'est une galaxie ? Parce que finalement, on a commencé dans le passé à les classer par des morphologies. Vous parlez bien de spirales, d'elliptiques, on a les galaxies barrées. Enfin, on a cherché dans les années 60-70 avec Gérard de Vaucouleurs, etc., à classer ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça tient toujours la route ou est-ce que finalement, chaque galaxie doit être définie comme un être à part avec une évolution qui va tenir compte de son environnement et de sa structure propre ?
Oui, tout à fait. Donc, d'une part, l'environnement, comme vous le dites, et puis aussi sa structure propre qui suggère en fait un mécanisme auquel je n'ai pas fait référence, mais effectivement, quand vous dites structure propre, ce sont donc des processus internes, et des instabilités dynamiques qui peuvent être provoquées de différentes manières. Par exemple, dans la galaxie, notre galaxie, la Voie lactée, on voit bien qu'il y a des ondes de densité qui sont ces bras spiraux qui vont comprimer le gaz. Dans une galaxie plus lointaine, ces structures bien propres de belles ondes spirales n'ont pas encore eu le temps de se mettre en place, dans pas mal de cas, et en réalité il y a des mouvements assez chaotiques du gaz et il y a des instabilités qui se propagent et qui font des espèces de grumeaux dans les galaxies, comme une purée qui est un peu ratée, qu'on voit et dans les simulations numériques et dans les observations, et qui peuvent être provoquées par un mécanisme qu'on avait complètement sous-estimé jusqu'à présent, qui est le fait qu'il y a des filaments, un peu comme dans une toile d'araignée, de gaz froid, intergalactique, qui tombent vers les galaxies et qui les nourrit. Et lorsque les galaxies accumulent du gaz, comme ça, ce gaz participe à la dynamique de la galaxie et va participer à ces instabilités dynamiques qui peuvent, dans un premier temps, ne pas provoquer la formation d'étoiles parce qu'on reste dans une configuration où le gaz est assez diffus, et puis par un mécanisme d'instabilité, tout à coup le gaz s'effondre en un point de la galaxie quelque part et forme un de ces grumeaux, et là les densités sont suffisamment élevées pour qu'ils se refroidissent et donnent naissance à des étoiles.
On les a observés, ces filaments de gaz interstellaire qui nourrissent les galaxies.
Alors, ces filaments de gaz intergalactique qui nourrissent les galaxies, pour l'instant, n'ont pas été observés parce que les conditions dans lesquelles ils sont telles qu'on n'a aucun moyen de les observer. On en déduit l'existence par des simulations à l'ordinateur en se disant la matière intergalactique qui a évolué depuis le début de l'histoire de l'univers a subi tel et tel processus physique, donc quelle doit être sa distribution, et on arrive à supposer ça. Non seulement on ne les a pas observés, mais on n'a même pas... Alors, on n'a pas de satellite ou d'instrument au sol prévu pour les observer, mais on n'a même pas une once d'idée de la façon avec laquelle on pourrait les observer. C'est-à-dire que même si vous me donniez maintenant $1 milliard, je ne pourrais pas vous dire comment je ferais pour les voir. Donc, le problème est assez subtil.
C'est un apport théorique, comme on dit. Restant à vérifier. Et est-ce que notre propre environnement, alors, je dirais à l'échelle locale, hein, notre galaxie, les galaxies qui nous entourent, le plan local, comme on l'appelle en règle générale, dont on découvre toujours avec surprise, d'ailleurs, année par année, qu'il s'enrichit de nouvelles galaxies. C'est assez extraordinaire. On apprend toujours qu'autour de la Voie lactée, il y a des galaxies satellites qui apparaissent, des petites. C'est surprenant, mais ça veut dire que les moyens d'observation progressent. Et ce qui nous donne une bonne information sur, finalement, ce qu'il y a ailleurs. Et puis, question corollaire, est-ce que notre propre Voie lactée est une galaxie active ou est-ce qu'elle est en train de mourir ?
Alors, c'est bon. L'environnement local, c'est un environnement constitué d'une grande quantité de naines qui n'ont pas eu une activité très intense de formation d'étoiles dans le passé, puisqu'elles ont encore du gaz, de quelques spirales comme la nôtre.
Vous définissez les naines,
c'est... Alors, des naines, en fait, on appelle des naines des galaxies qui ont à peu près 1 milliard de fois la masse du Soleil, donc qui font partie des petites masses dans la distribution des masses des galaxies. C'est aussi des galaxies qui ont des formes qui n'ont souvent pas de disques, qui sont assez qui ressemblent à des blobs de gaz. Alors, maintenant, est-ce que on peut à travers l'observation des galaxies de notre environnement très proche, voir tous les mécanismes qui ont été en jeu pour la naissance des galaxies dans l'univers lointain, c'est une bonne question. Et je dirais qu'il n'y a pas de réponse officielle, mais ma propre interprétation des choses, c'est que non, je ne crois pas, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les conditions de formation des premières galaxies sont dans un environnement très dense, avec du gaz intergalactique ionisé qui est affecté par des instabilités de toutes sortes. Les quasars sont allumés, les jets qui viennent des quasars vont participer à l'accélération de ces instabilités justement qui sont à l'origine de la formation d'étoiles. Les elliptiques qui ont formé leurs étoiles en un temps caractéristique très très court, ces mécanismes-là se sont tous éteints depuis 10 milliards d'années. Et donc on ne peut plus les voir aujourd'hui. Alors, et ce sont des formations d'étoiles sur l'échelle d'une galaxie entière en un temps très court, 1 milliard d'années. Quelque chose qui est inimaginable. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans la Voie lactée, c'est des petits blobs qui forment des étoiles, ce qu'on appelle des régions H2 de gaz hydrogène ionisé. Mais jamais on a observé dans notre univers proche des galaxies entières qui seraient allumées, à part quelques rares cas d'objets à quelques milliards d'années-lumière de nous, où on commence à voir des flambées de formation d'étoiles à l'échelle d'une galaxie entière, qui pourraient être des analogues des galaxies distantes, peut-être. Mais et aussi même, on se demande si lorsque les étoiles naissent, les mécanismes en jeu pour faire qu'il y ait une proportion de petites et de plus grosses sont vraiment bien représentés par notre environnement proche. Peut-être que dans l'univers lointain, dans les galaxies massives, on donnait beaucoup plus efficacement naissance à des étoiles très massives et peu à des petites.
Et notre propre galaxie, elle est active, elle est vivante ou
Alors elle est active.
Elle est à la retraite.
Elle a une vie moyenne, donc quelques masses solaires par an. C'est pas beaucoup, mais en fait, ça lui permet, disons, de maintenir une existence qui peut durer comme ça paisiblement pendant un certain nombre de milliards d'années. Donc elle se ménage.
Et quand il y a une supernova qui éclate, ça en crée pas plusieurs
C'est comme tout. En fait, chaque mécanisme est paradoxal, puisque une supernova a à la fois pour effet de chauffer et de balayer le gaz qui est autour d'elle, et en même temps de provoquer une onde de choc qui va comprimer le gaz un peu plus loin et donc pouvoir donner naissance à de nouvelles étoiles. Si on prend par exemple le cas du système solaire, tout porte à croire que la formation du système solaire a été provoquée par l'effet d'une onde de choc d'une supernova qui aurait explosé il y a quelques milliards d'années. Mais par contre, il y a des galaxies comme la galaxie Messier 82, qui est la galaxie de la flambée de formation de l'étoile la plus proche de nous, à peu près 10 000 années-lumière de nous. Cette galaxie, elle a une flambée de formation d'étoiles. Le nombre de supernovae est si grand qu'elles ont pour effet de complètement vider le cœur de la galaxie de son gaz par un vent galactique. Et donc ces mécanismes-là, les supernovae, vont en quelque sorte la tuer. C'est un des acteurs qui peut tuer une galaxie, l'explosion concomitante d'un certain nombre de supernovae qui se combinent entre elles pour éteindre une galaxie comme si on soufflait sur une bougie. Donc si vous avez une cheminée et vous soufflez un peu dessus, vous donnez de l'air qui va la nourrir. Si vous soufflez un peu plus fort dessus, vous allez éteindre, comme ce que vous faites pour une bougie. C'est exactement la même chose. Le mécanisme des supernovae accélère la formation d'étoiles jusqu'à un certain point, et au-delà d'un certain point, souffle, éteint tout.
Et les 90% de matière baryonique dont on ne sait pas à quoi elles servent, c'est pareil, elles se comporteraient de la même façon que ce qui est visible.
Alors elle attend quelque part entre les galaxies, probablement dans des espèces de grands filaments de gaz intergalactiques, et on pense qu'elle aurait tendance à tomber vers les masses les plus grosses. Donc par exemple, plus une galaxie est massive, plus elle aurait tendance à en attirer. Or, à nouveau paradoxe, les galaxies les plus massives sont celles qui ne forment plus d'étoiles. Alors comment se fait-il parce qu'elles ont formé leurs étoiles très tôt dans l'histoire. Or, c'est en même temps celles qui sont censées être les plus efficaces pour attirer le gaz intergalactique autour d'elles. D'où l'idée que lorsque elles se sont éteintes, le processus qui les a éteints a chauffé le gaz, et non seulement a vidé la galaxie de son gaz, mais l'a chauffé au point de créer un halo de gaz chaud autour de ces galaxies. Et lorsque vous avez du gaz chaud qui entoure une galaxie, ça fait comme un bouclier qui empêche un gaz plus froid de tomber, puisque finalement, qu'est-ce que c'est que la température? C'est la mesure de l'agitation du gaz, et plus un gaz est agité, moins il aura tendance à se reposer, à s'effondrer. Et donc, il faut trouver un mécanisme qui va pouvoir chauffer en même temps qu'il souffle le gaz dans les galaxies. Et là, les vents dus aux supernovae, le rayonnement produit par un noyau actif, par un quasar, sont des acteurs qui peuvent avoir participé à ce mécanisme.